Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Votre vie et votre carrière sont à l'image de votre passion du cheval, de grandes balades dans une nature que vous avez protégée, et vous signez aujourd'hui un autoportrait qui vous ressemble, authentique, sans la moindre mise en selle. Bonjour Hugo Frey.
Bonjour.
C'est vrai que vous avez un nouvel album Autoportrait.
Exact.
Vous avez 91 printemps, on ne peut pas s'en cacher, mais une fois olympique, on va en reparler. Et le principe de cette émission, c'est de revenir sur votre parcours, un parcours très long. Alors, je vais vous donner des dates clés et puis on va réagir là-dessus.
Pas de problème.
Le 3 novembre 1941, ça vous dit sans doute rien, c'est une rentrée scolaire à Villard-de-Lans, dans un collège qui s'appelle... qui a été créé par votre tante.
Oui, qui à l'origine s'appelait Le Clocher, et qui va s'appeler bêtement le Collège Turenne, je crois, un moment donné.
Et c'est Geneviève Auvray, votre tante, qui a fait de ce home d'enfant en 1934 un collège où vous avez commencé vos études.
Pas tout à fait ça. Le collège a été fait par ma tante, et c'est elle d'ailleurs qui, en partie, a lancé cette station qui était tout à fait nouvelle, spécialisée dans la santé, pour la santé des enfants.
Exactement.
Voilà. Ce collège était familial, c'est-à-dire qu'il y avait ma tante qui avait refusé de renoncer à se marier. Par amour, parce que son fiancé avait été blessé à la guerre de 14 et ne pouvait plus avoir d'enfants. Et pour consacrer sa vie à l'éducation des enfants, elle a monté ce home d'enfants. Ça s'appelait un home d'enfants.
Exactement.
Et alors il y avait mes deux frères, il y avait toute la famille. Il y avait quand même, une centaine d'élèves. Mais moi j'étais dans les tout petits, parce que j'avais 7-8 ans. Et dire que j'ai commencé des études, non, c'était pas sérieux, quoi. Mais enfin, j'ai quand même des grands souvenirs, et un souvenir dont je parlerai peut-être. En tout cas, il y avait ma tante était très croyante, très pratiquante, chrétienne, je dirais chrétienne de un peu comme l'abbé Pierre, c'est-à-dire les chrétiens qu'on dirait de gauche aujourd'hui. Et il faut savoir que mon grand-père, que je n'ai pas connu, l'avocat Jules Auffray, était le grand ami. Le meilleur ami du père du général de Gaulle. C'est pour donner l'indication un peu de ma culture. Et dans la chapelle, où il y avait évidemment les offices, il y avait un chemin de croix qui était fait par un peintre qui s'appelait Cornelius et qui va marquer l'enfant que j'étais dès l'âge de 6-7 ans.
Alors, ces vitraux de la chapelle ont été conservés et offerts à la commune, et aujourd'hui, ce lieu est devenu un bâtiment qui a une résidence, qui s'appelle le Diamant, et c'est au 53 rue Albert Sauboul.
Je ne m'attendais pas du tout à ce que vous me parliez du clocher, mais je pourrais dire que c'est un peu, l'illustration de ce que je pourrais appeler la décadence de la France. Car le Diamant, oui, c'est un diamant, c'est un bâtiment magnifique qui a été fait avec beaucoup de ferveur par un architecte formidable, un immense chalet entièrement en pierre, d'une très grande beauté. Il y avait une chapelle qui était extraordinaire, avec ce chemin de croix de Cornelius, et l'hôtel, c'était très moderne, parce que ma tante était très moderne. Tout ça était très moderne, et quand j'y suis retourné, le collège avait disparu, la chapelle avait disparu, c'était devenu en quelque sorte le bar et la boîte, l'endroit où les gens se réunissaient pour écouter de la musique et danser. Et l'hôtel, tenez-vous bien, je l'ai reconnu, il existait encore, il était en bois, probablement un très beau bois, et c'était le bar.
Incroyable. Alors, il y a eu un autre collège qui a compté pour vous plus tard. Bon, vous êtes né à Neuilly, mais vous avez été dans un collège dans le Tarn, le collège dominicain de Sorèz, qui a eu quand même comme ancien élève La Pérouse, Henri de Turenne et Fouquet.
Oui, et puis dans d'autres domaines, Pierre Jeanquer d'Oriola, qui va devenir le plus grand cavalier du monde avec plusieurs médailles, et qui a eu le même professeur d'équitation, parce que Sorèz, 5 années à Sorèz, pour un petit garçon qui a toujours eu des difficultés à l'école parce que j'avais un handicap considérable, j'étais hyper gaucher, j'écrivais de la main gauche et de droite à gauche, c'est-à-dire à l'envers. Je ne pouvais pas être pensionnaire parce que, étant petit garçon, à la suite de probablement d'une émotion très forte, j'ai été traumatisé et j'étais incontinent, je faisais pipi au lit. Et donc, j'étais très malheureux de ne pas pouvoir suivre mes frères dans les internats. Mais à Sorèze, j'étais externe avec mes frères. J'étais externe.
Et en plus, c'est là où vous avez commencé à chanter dans les chœurs.
Et alors, comme c'était des Dominicains, moi qui n'étais pas très bon à l'école, j'avais deux domaines où je revendiquais d'être meilleur que les autres. Je revendiquais pas, mais il se trouvait que j'étais meilleur. J'ai eu chaque année le prix d'équitation, j'étais le meilleur cavalier du collège, et je faisais partie de la fanfare, sans savoir lire une note de musique, et je faisais partie de la chorale. Notre professeur de grec, de latin et de musique s'appelait Jean-Sébastien Bach. C'était son vrai nom, et c'est lui qui tenait les orgues à Sorèze.
Voilà. Et ensuite, alors, la guitare, c'est venu autrement avec le flamenco à Madrid, quand vous avez passé le bac au lycée français de Madrid, je crois, Hugo Frey.
Après 5 années de guerre, mes frères étant partis, parce que tout le monde, on était les 3 frères, il y avait Jean-Paul, Offray 1, Francesco, Offray 2 et Hugues, Offray 3. Les deux sont partis en Espagne, ils ont fui parce que mon frère aîné était déjà étudiant, mais à Toulouse, dans la résistance, et pour échapper à la Gestapo, ils ont fui, ils ont rejoint l'Espagne en traversant les Pyrénées dans la nuit, comme ça, dans des conditions héroïques. Et je me suis trouvé tout seul au collège de Sorèze, malheureux, et maman, voyant ça, elle a dit, écoute, tu vas rejoindre ton père, c'était en 1945, tu vas rejoindre ton père en Espagne, ton père et nous sommes divorcés, je ne le savais pas à l'époque, je ne savais pas que mes parents étaient divorcés. Et il s'est remarié en Espagne, et je vais débarquer en Espagne sans connaître un mot d'espagnol, mais j'ai tout de suite compris quel était ce pays, et dès le Noël, le premier Noël que j'ai passé à Madrid, j'ai demandé à mon père, il m'a demandé qu'est-ce que tu veux comme cadeau, j'ai dit une guitare.
Et ça a commencé comme ça. En revanche, il y a une autre musique qui vous passionnait à l'époque, et une musique beaucoup plus classique comme celle-ci. Le concerto pour violon de Tchaïkovski, et vous allez à Pléiade avec peu d'argent, avec le rêve de devenir concertiste au départ, Hugo Frey.
Ah, je ne sais pas d'où vous tenez ça, j'ai jamais rêvé de devenir concertiste.
Ah, c'est ce que disaient vos parents à l'époque. Votre mère le disait.
Non, non, non. Là, c'est une information. Je vais vous dire, ce qui s'est passé, c'est que je ne savais pas lire la musique, parce que j'ai été, comme dyslexique, j'avais des difficultés avec les signes. Or, les lettres, ce sont des signes, et les notes, ce sont des signes. Moi, je suis comme les gitans, un instinctif. Les gitans, souvent, ne savent ni lire ni écrire, mais ils savent penser, ils savent entendre, ils savent chanter. Et donc, on n'a pas besoin des yeux, même, pour la musique. La preuve, c'est que Ray Charles et bien d'autres sont aveugles. Mais, assez curieusement, mon frère Francesco, qui, lui, à l'âge de 16-17 ans, va décider d'être musicien, il va faire ses études pour devenir chef d'orchestre. Nous fréquentions Pierre Boulez à l'époque, c'était un très haut niveau. Et moi, je pianotais, comme disait ma grand-mère, c'est-à-dire je faisais n'importe quoi au piano sans savoir la musique. Et un jour, mon frère, en me regardant, alors que j'avais à peine 17 ans, il m'a dit « tu seras concertiste ». Et c'est lui qui a prononcé ce mot. Peut-être qu'on vous a mal rapporté la chose, mais c'est pas ma mère.
C'est votre frère.
Puisque moi, je disais à tous ceux qui voulaient l'entendre que moi, je voulais être peintre et sculpteur.
D'ailleurs, vous rêviez de faire une école d'architecture aussi.
Non, pas l'architecture. Je rêvais de faire la peinture et la sculpture. Et quand mon père m'a demandé de faire l'architecture, j'ai compris qu'il ne réalisait pas que j'étais nul en mathématiques. À l'époque, il n'y avait pas de machine à calculer qu'on porte dans la poche. À l'époque, il fallait savoir faire une division, le calcul mental. J'étais nul, nul, nul. Mais j'ai quand même fait l'effort d'aller m'inscrire au studio. Pour ceux qui sont dans l'architecture et qui m'écoutent en ce moment, l'atelier Perret, qui était le sommet, j'ai été à l'atelier Perret, rue Jacques Callot, je crois. Oui. Et quand je suis arrivé en haut, j'ai vu qu'il y avait un mouvement tournant autour de moi qui était suspect. Et j'ai très rapidement compris qu'ils allaient s'emparer de mon corps et puis me passer la figure au bleu de méthylène et me raser les cheveux. Je suis parti en courant, j'ai dévalé les grands escaliers de l'atelier et on ne m'a plus jamais revu en tant qu'élève architecte.
En revanche, vous avez commencé des études de philo au cours Pascal où il y avait un certain Belmondo dans une classe inférieure, je crois.
Oui, il était en seconde et moi je suis en philo. J'ai eu un professeur qui a réussi cette performance extraordinaire, c'est à me dégoûter totalement de la philo, parce que quand il parlait, personne ne comprenait ce qu'il disait. c'était en tous les cas, en gros, toujours sur le thème de Marx et de Sartre. Par la suite, je me suis intéressé à la philosophie et j'ai découvert que Marx ne m'intéresse pas du tout. À tort d'ailleurs, parce que Marx, c'est pas le communisme. Marx, c'est assez intéressant. Mais le communisme de Sartre ne m'a pas du tout intéressé. Et donc, je me suis dégoûté de la philo jusqu'au jour où j'ai lu un ouvrage de Jean-François Revel. Je suis devenu un adepte de Jean-François Revel. J'ai lu tout Jean-François Revel, qui un jour a eu la gentillesse de m'inviter à déjeuner. Et c'est un des grands souvenirs. Et grâce à lui, je suis réhabilité avec la philosophie.
Voilà, des souvenirs, il y en a d'autres. On en parle dans quelques instants avec une autre date, le 2 mai 1959. A tout de suite sur Sud Radio avec Hugo Frey.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hugo Frey. Il y a cet album Autoportrait dont on va parler tout à l'heure. Et puis une date, le 2 mai 1959. Alors, si vous n'avez pas ce souvenir en tête, c'est une émission de télévision qui s'appelle Chez vous ce soir, où l'on entend cette chanson.
À la caserne le soir, on avait souvent...
C'est votre première télé, oui. Il y avait Fanny qui chantait et c'est Michel Arnaud qui vous a invité, Hugo.
Ah oui. Oui, moi je crois que j'avais fait une émission avant, mais que vous ne vous arriverez pas à trouver, je crois, qui s'appelait Paris Club.
Ah oui, Paris Club, c'était la midi avec Jacques Chaban et Roger Ferral.
Oui, et à cette époque-là, je n'avais pas encore fait de disque.
Voilà.
Donc c'est la différence, tandis que là, Fanny qui chantait, oui. C'était mon premier disque.
Et d'ailleurs, c'est devenu, je crois, la chanson fétiche des appelés d'Algérie.
Exactement. Moi, je n'étais pas de la génération... Je ne pouvais pas être appelé en Algérie à cause de ma situation. J'étais déjà père de famille de deux petites filles. Mais ce que je pourrais dire, c'est que ma vie est marquée par la guerre parce que au moment où je prends conscience un peu de ce qu'est le monde, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, quoi, entre 9 et 10 ans, en 1939, c'est le début de la guerre. Que vous connaissez, 39-45. Mais, depuis que j'étais petit, mon père parlait de la guerre parce que toutes ces affaires étant en Espagne, il y avait la guerre en Espagne. Donc je suis un grand spécialiste de la guerre d'Espagne, puisque j'ai entendu... Et qu'en plus de ça, nous avions trois réfugiés de la guerre d'Espagne chez nous pendant 2 ans. Alors, la guerre d'Espagne, la guerre 39-45, puis la guerre d'Indochine, puis la guerre... d'Algérie, puis le Vietnam. J'ai toujours entendu et vu la guerre autour de moi.
Alors, j'en reviens à cette émission avec Michel Arnaud, car Michel Arnaud, vous faites sa connaissance ce soir-là, et il y a quelqu'un qui vous doit beaucoup, c'est Michel Drucker, car c'est vous qui avez suggéré à Michel Arnaud de l'engager
voilà.
Pour faire cette carrière.
Voilà, on m'a proposé un jour d'une émission dont je serais la vedette, et je pouvais inviter les gens que je voulais, mais ça n'a pas été tout à fait le cas, parce que j'ai voulu faire venir le merveilleux Canadien, dont le nom échappe à l'instant même, mais ça va revenir.
Félix Leclerc, Gilles Vigneault.
Non, l'autre.
Gilles Vigneault.
Gilles Vigneault, bien sûr, qui chantait « Tout le monde est malheureux, la, 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 un truc comme ça, formidable. Et j'ai pas obtenu ce résultat, mais j'ai obtenu que de ne pas présenter les artistes tout seul. J'ai dit « J'aimerais bien quelqu'un que j'ai repéré dans une émission de sport, il a une bonne gueule et il est nouveau, il s'appelle Michel Drucker, elle l'a engagé et ça a été la première télévision de Michel.
Ouais, et aujourd'hui sur internet on peut lire quel monde allons-nous laisser à Michel Drucker, on pourrait appliquer cette formule à vous, quel monde allons-nous laisser à Hugo Frey ?
Quel monde on va laisser à Hugo Frey ?
Ouais.
Ah ben on est, je vais pas vous lancer dans cette histoire,
ça circule sur internet en ce moment.
Voilà, on rentre maintenant dans la post-histoire qu'avait annoncé Philippe Muret et Aldous Huxley. Nous sommes dans la post-histoire.
Alors j'en reviens à la préhistoire, c'est-à-dire les soirées à Saint-Germain-des-Prés en 52, que vous venez animer, vous poussez la note devant des amis, et c'est comme ça que ça débute votre carrière, Hugo Frey.
Alors, quand j'arrive d'Espagne, après, avec le bac de première partie en poche, évidemment, je joue de la guitare, je ne chante qu'en espagnol, c'est-à-dire une chanson mexicaine, brésilienne, espagnole, je chante de folklore latin. Et mon père me dit, non, si tu vas au Beaux-Arts, tu vas perdre ton temps, tu gagneras jamais ta vie, tu vas être très pauvre, tu vas te retrouver au même niveau que Cézanne, que Van Gogh et que Gauguin. J'ai dit, j'aimerais bien, papa, j'aimerais bien. Mais lui, il voyait son fils malheureux. Il ne voyait pas un fils génial. Il avait raison. Mais donc, je n'ai pas pu faire les Beaux-Arts. et désemparé, un peu triste. Et très rapidement, comme un garçon normal, j'ai rencontré une jeune fille que, dont je suis tombé amoureux, puis alors voilà, il a fallu commencer à gagner ma vie, je voulais pas être entretenu par une jeune fille ou une jeune femme, et donc j'ai commencé à chanter. J'ai fait d'abord mon service militaire avant de me marier, bien sûr. Oui. J'ai fait et en sortant du service militaire, ben j'ai pris ma guitare et comme j'étais repéré parce qu'à l'époque personne ne se baladait avec une guitare sur l'épaule, ça il faut le savoir. C'est aujourd'hui
et
c'est
pieds
court.
Nus en plus.
Oui, pieds nus parce qu'à un moment donné, c'était l'été, bien sûr, je n'avais pas de chaussures qui me plaisent et comme j'étais très soucieux de mon apparence, je trouve que pieds nus c'était plus chic qu'avec des chaussures moches. Et donc j'avais ma guitare sur l'épaule. J'ai été abordé par un monsieur qui s'est présenté. Qui était portugais, directeur de la banque franco-portugaise, et qui m'a dit « Ce soir, j'ai une soirée avec des amis, est-ce que vous accepteriez de venir chanter quelques chansons dans mon appartement ?» Et il m'a donné l'équivalent d'un 40 euros ou 50 euros, peut-être, autant que ça, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, ça a été la première fois, et je me suis rendu compte qu'on pouvait gagner sa vie en chantant, et ça va durer 10 ans.
Voilà. Alors, il y a un cabaret aussi très important, totalement oublié aujourd'hui, que Pierre Dudan a chanté, c'est la Polka des Mandibules.
C'est la Polka des Mandibules, coin, coin, cric, 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 on bouffe des bruits, on fait des bulles, coin, coin.
Pierre Dudan, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui a débuté avec Yul Brynner, en chantant avec Yul Brynner à Paris.
Voilà, alors Pierre Dudan, que j'aimais beaucoup, il avait une belle gueule, il j'aimais bien, mais c'est pas lui qui a créé la Polka des Mandibules cabaret. La chanson... La Polka des Mandibules a été choisie par un garçon qui s'appelait Jacques Nonni,
oui,
et qui était l'amant de la femme du directeur du Miller Larsouille.
Oui, qui est cabaret de Francis Claude et Michel Arnaud.
Donc Francis Claude avait une maîtresse probablement, et sa femme le trompait avec un jeune qui s'appelait Jacques Nonni, qui à un moment donné a décidé de prendre ses ailes et démarrer. Il a ouvert un cabaret dans un quartier complètement comment dirais-je, spécialisé dans tout ce qui était liturgique, comment on peut dire, chrétien.
Oui.
Oui, on vendait des soutanes, des calices et des choses comme ça, et des images de bondieuserie, comme dirait ma grand-mère. Et c'était Saint-Sulpice. Et dans cette rue des Canettes, il a ouvert ça chez un marchand bois et charbon, une boîte qui s'appelait la Polka des Mandibules. Ça marchait pas du tout. Jusqu'au jour où je suis venu on m'a dit va te présenter là, et j'ai commencé à chanter, et un mois après c'était le restaurant du Tout Paris.
Et effectivement, vous chantiez des airs d'Amérique du Sud à l'époque, c'était pas...
Alors oui, alors moi je ne faisais pas un tour de chant, je chantais, je faisais de la musique de fond.
Oui.
Il n'y avait pas à l'époque, comme maintenant, des sonos, on passe des disques, etc. Donc moi je faisais une musique de fond qui était adaptée quand les gens, au début je jouais des ballades, j'avais toujours un accordéoniste et un guitariste avec moi, donc c'était assez joli. Et puis à un moment donné, quand les gens arrivaient au café, il fallait qu'ils s'en aillent. On voulait les chasser parce qu'il y avait des gens qui attendaient. Alors, comme la salle était petite, il n'y avait que 40 places, pour pouvoir gagner de l'argent, il fallait faire deux salles, il fallait faire 80 personnes. Donc je montais le ton, je chantais les chansons du Carnaval de Rio, à une force insupportable, les gens demandaient l'addition, s'en allaient, et soulagement, on pouvait faire rentrer les 40 personnes qui attendaient. Donc on arrivait à doubler la salle tous les soirs.
Ouais. Et une salle importante pour vous, c'est l'Olympia, où il y a les numéros 1 de demain. Vous chantez du Gainsbourg, je crois, le Point Seigneur des Lilas. Et ce soir-là, vous êtes repéré par Eddie Barclay, Hugo Frey.
Alors, quelques années après, effectivement, Barclay me dit, tu sais, il faut que tu composes des chansons. Je dis, moi, je sais pas composer de chansons. Alors donc, je traînais un peu la nuit dans les cabarets à droite et à gauche, je vais voir les copains. Et puis, j'ai repéré un type totalement inconnu qui s'appelait Gainsbourg, au Miller Larsouille, où il chantait deux, trois chansons. Et moi, je n'avais pas de magnétophone, ça n'existait pas d'ailleurs à l'époque. Donc, je suis venu plusieurs soirs avec un papier, un crayon, et je notais les paroles et la musique que j'ai appris d'oreille, évidemment, de mémoire. J'ai appris cette chanson et je la chantais et j'avais beaucoup de succès avec. Et lorsqu'on m'a inscrit à ce concours, les numéros 1 de demain, organisé par Pierre Delanoë à Europe 1, il m'a dit, vous avez des chansons originales? Je dis oui, j'ai une chanson originale, j'ai chanté Le Poissonneur. Il m'a dit, c'est bon, avec cette chanson à l'Olympia, j'ai gagné un contrat chez Barclay.
Et voilà. Et après, ben, il y a eu beaucoup d'autres choses. On va faire un grand saut en avant, avant de revenir en arrière, avec une date, le 28 février 1996. À tout de suite sur Sud Radio avec Hugo Frey.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hugo Frey. Cet album Autoportrait, on va en parler tout à l'heure, mais on revient à une date un peu récente, 28 février 1996, le Casino de Paris, la première au Casino de Paris, avec cette chanson.
Hollis Brown habitait un bled perdu loin de la ville.
Ah oui.
Une chanson de Bob Dylan, dont le premier enregistrement date de 65, et que vous reprenez au Casino de Paris, oui, en hommage à Bob Dylan, Hugo
oui,
Frey.
Oui, oui. Toute la première partie était consacrée, je crois, à Bob Dylan.
Oui.
Ce qui n'a pas plu complètement au public, parce que oui, c'est bien Bob Dylan, mais enfin, Hugo Frey, on préfère Hugo Frey. Bon, chacun ses idées, mais moi, j'avais pensé qu'il fallait bien une dizaine de chansons pour montrer quand même la force, la puissance d'inspiration de Bob Dylan. Donc, j'avais fait un spectacle en deux parties. Première partie, Hugo Frey chante Dylan. Deuxième partie, Hugo Frey.
Alors, la découverte de Bob Dylan, avant de le rencontrer, vous découvrez New York, et vous découvrez New York, Hugo Frey, grâce à Maurice Chevalier, qui oui, vous emmène pour un gala après Lynn Paris.
Voilà. Alors, c'est un gala de bienfaisance, donc on n'était pas payé, lui-même n'était pas payé, mais dans sa sensibilité, et puis surtout, je crois, c'est le destin qui guide tout ça, moi. Je crois au destin. Et il choisit, après un casting sévère, où des noms que j'ignore, mais des noms de l'importance de Sacha Distel et d'autres chanteurs dont les noms m'échappent maintenant, c'est moi qui l'a choisi. Alors que je suis incontestablement celui qui avait, enfin, à mon avis, le moins de talent, quoi. Mais je le pensais, hein, franchement. Peut-être, je me suis sous-estimé quand j'étais jeune, mais honnêtement, j'avais beaucoup de complexes. Et je continue d'avoir des complexes quand je vois les gens qui chantent d'une façon merveilleuse. Moi, je chante, c'est mon cœur, c'est mon ventre qui chante, mais c'est bon.
C'est ce que le public attend aussi.
Mais une chose qu'il faut que je te dise, c'est quand même que je vous dise, cher ami, c'est que j'avais un frère qui avait une voix d'opéra splendide, qui aurait été une des plus grandes vedettes du monde s'il avait vécu, mais qui a choisi de quitter le monde à 27 ans. Et c'est normal, quand on est en face d'un garçon qui fait 20 cm de plus et qui a une voix, comment dirais-je, unique au monde, c'était normal que j'ai des complexes. Donc j'ai été choisi par Maurice Chevalier, j'ai chanté à New York, à ses côtés. Son impresario a essayé de me lancer. Après, je vais rentrer en France, mais revenir dans un cabaret l'année d'après, en 62.
Le Blue Angel.
Le Blue Angel.
Et un soir, vous vous prenez dans Greenwich Village, et là, vous trouvez un chanteur totalement inconnu, Bob Dylan.
Je l'avais déjà vu en 61, au premier passage avec Maurice Chevalier, mais je n'étais resté que 8 jours à New York. Je ne parle pas français, je ne parle pas l'anglais, je ne comprends pas l'anglais. Et à travers la vitre, je l'avais entendu chanter, j'avais été fasciné, j'ai dit je veux revenir dans ce pays où des gens comme ça peuvent chanter. Et je me suis débrouillé donc à revenir au Blue Angel, où là par contre je suis passé pendant un mois dans ce cabaret qui était le cabaret qui lançait les artistes nouveaux. Et c'est là que j'ai rencontré Peter, Paul et Mary. Oui. Et que c'est grâce à eux que je vais rencontrer enfin Bob Dylan et rentrer en France en 62 pour décider à traduire les chansons de Bob Dylan. Bob Dylan débarquera chez moi en 63.
Et il a accepté tout de suite, il vous a fait confiance sur la traduction des chansons.
Oui, exactement. Je ne sais pas pourquoi. Il ne parlait pas français. Moi, je ne parlais pas l'anglais. Et je me suis fait traduire les chansons par Mason Offenberg, qui était le mari de ma cousine Cookit. Et donc, Mason m'a traduit les chansons de Bob. J'ai dit, c'est bon, je vais essayer de traduire ça pour transmettre ça et passer cette culture aux jeunes Français qui ne parlent pas l'anglais.
Et cette culture que vous avez importée en France, c'est le folk song.
C'est le folk song, donc je vais créer un nouveau courant. La France, il y a toujours les variétés classiques, c'est-à-dire Luis Mariano, un peu d'Espagnola, Jorge Guettari, Tino Rossi, etc. Puis tout d'un coup arrive, il y a eu le jazz, alors donc avec évidemment Charles Trenet, etc. et qui va être repris par des gens comme Nougaro. Arrive le rock'n'roll, qui est repris par les Chaussettes Noires et Johnny Hallyday, etc. Et ce nouveau courant, la folk music que je vais moi incarner.
Et Bob Dylan, non seulement vous l'importez en France, mais vos traductions ont imposé Dylan en Tchécoslovaquie, en Russie, en Pologne, en Roumanie. Finalement, le prix Nobel de Bob Dylan, il vous le doit un petit peu, Hugo Frey.
Bob Dylan doit le prix Nobel au fait que je crois que les gens, les Suédois, ont vu à travers Dylan l'incarnation, comme moi je vois l'incarnation de la poésie dans Rimbaud. Moi, de Villon à Rimbaud, pour moi, il y a un grand pont, mais ils sont ensemble. Après Rimbaud, je ne reconnais pas, moi, la poésie à travers les poètes récents de l'après-guerre. Ils ont du talent, ils sont intelligents, ils ont de la culture, mais pour moi, la poésie, c'est fini après Rimbaud. Et je crois que ce qui va se passer, c'est que la poésie se sépare du peuple parce que les gens ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas Mallarmé, ils ne comprennent pas Valéry, ils comprennent un peu Aragon. Parce que tout d'un coup, on va mettre de la musique. C'est le jour où la poésie se sépare de la musique qu'elle se sépare du peuple. Or, Dylan incarne la poésie chantée à travers le monde. Sa silhouette physique, sa voix, sa façon de vivre, il incarne la poésie et c'est pour ça que je crois qu'il a eu le prix Nobel de littérature.
Alors, vous l'avez revu Dylan depuis son prix Nobel ? Vous avez des nouvelles de temps en temps, Hugo Frey ?
Non. Pour être très honnête avec vous, j'ai un grand respect pour lui et il est submergé. Il a une gloire gigantesque à travers le monde, une fortune immense parce qu'il a un talent immense, c'est un génie. Maintenant, il fait lui aussi de la peinture, il fait aussi de la sculpture, et avec son nom, évidemment, il a des résultats incroyables. Il n'a pas le temps. Je ne veux pas, moi, j'ai jamais sonné à la porte de Georges Brassens pour lui demander une entrevue ou une signature. Jamais, jamais, jamais. Jamais je n'aurais osé déranger un génie. On dit, il ne faut pas déranger un chat qui dort. Mais moi, je dis, il ne faut pas non plus déranger un génie. Donc, actuellement, Dylan est entouré d'un mur de protection. Personne ne peut l'approcher. Et moi, je ne lève pas le petit doigt pour essayer de... Mais peut-être qu'un jour, il redescendra sur Terre.
On verra. Il y a aussi un autre surnom qu'on vous doit, car vous en êtes l'inventeur, c'est vous êtes un boy scout. Et ça, c'est vous qui avez trouvé l'expression.
Ah non, non.
Vous vous les êtes attribués, je crois.
Non, pas du tout. Oh mon pauvre.
C'est ce que Jean-Jacques Debout raconte.
Oui, mais ça c'est vrai. Voilà, comment on déforme la vérité. Je n'ai jamais été boy scout. En revanche, j'ai pendant la guerre, les Boy Scouts avaient été l'image un peu de la culture anglo-saxonne avec Baden-Powell. Évidemment, pendant la guerre, l'occupation, le scoutisme a été remplacé par les cœurs vaillants et âmes vaillantes. Bon, c'était la même chose. Mais ce que je veux dire, c'est que malheureusement, moi, à Sorèze, il n'y avait pas de scoutisme. Donc, j'ai jamais été scout. En revanche, quand j'ai commencé à chanter, tous les mouvements de jeunesse, qu'ils soient d'origine catholique, protestant, juif, musulman, ou disons laïque, ou voire athée, ils ont tous chanté mes chansons. Alors, on a dit de moi que j'étais le boy scout, comme on a dit que j'étais le gay laboureur aussi. Oui. Mais c'est pas moi qui dis ça. Il a fallu que je me défende, parce que je trouvais que c'était un peu... on se moquait un peu de moi. En me traitant de boy scout, ça veut dire que c'est un imbécile qui se balade avec un sac à dos, un chapeau, et puis qui chante « Le roi Arthur avait trois fils, quel supplice !» Des chansons magnifiques d'ailleurs. Eh bien, moi je vais vous dire une chose. Aujourd'hui, je ferai tout pour réhabiliter le scoutisme en France.
Et vous n'êtes pas le seul, parce que j'ai repéré que parmi les 294 astronautes américains, 205 ont été Boy Scouts, et des 12 qui ont marché sur la Lune, 11 ont été Boy Scouts, dont Neil Armstrong et Charles Duke qui avaient les plus hauts grades.
Permettez-moi de profiter de votre émission pour dire que ça serait pour moi une réussite dans ma vie si parmi les choses que je laisserais derrière moi, on pouvait dire Hugo Frey, à partir de 2021, a réussi à redonner au scoutisme son image vraie qui a été détériorée par toute cette génération formidable, celle de Coluche qui était un génie, drôle, etc. Mais tous ces gens-là se sont moqués des curés, du scoutisme et de toutes ces valeurs-là et ça, c'est pas bien. Il faut retrouver le sens du scoutisme de Baden-Powell.
Alors, le scoutisme, ce sont les feux de camp avec des enfants. Et vous avez fait les beaux soirs des feux de camp et les beaux jours des écoles avec une chanson, je crois, qui est incontournable aujourd'hui à la fin de l'année.
Voilà. Ah oui, c'est...
Ça, c'est incontournable dans les écoles.
J'ai écrit cette chanson avec Flynn Buggy. Chacun, comme d'habitude, a apporté son idée. Moi, j'ai toujours... C'était en mai 68 qu'est née cette idée pour moi. Ma petite fille était à la maternelle et j'ai assisté au départ d'un professeur. C'était lamentable, d'une tristesse affligeante. Quelqu'un qui avait passé 30 ans pour enseigner aux enfants. Enseigner, j'ai dit bien enseigner. Je lutte depuis mai 68 contre le ministère de l'Éducation pour qu'il revienne au vrai sens que la Révolution française avait donné, l'instruction publique, qui sépare l'éducation et l'enseignement. Le ministère de l'Éducation actuellement souffre de ne pas comprendre qu'il a des enseignants, il n'a pas d'éducateurs. Les enseignants enseignent la chimie, la physique, la géographie, l'histoire, les langues, mais ils ne sont pas éducateurs. Les éducateurs, comme l'a dit Camus, j'ai appris de la morale en philosophie, tout ce que j'ai appris de la morale en philosophie, c'est sur le terrain de football. Et l'éducation, c'est les relations de l'être humain avec les autres êtres humains, avec la nature, avec les animaux, et le respect des lois, le respect du jeu. C'est dans les escaliers, dans les vestiaires, c'est au stade que doivent être les éducateurs qui se chargent d'éduquer. Quant aux parents, qui doivent aussi participer, ils doivent à la fois réunir l'enseignant et l'éducation, c'est ce qu'on appelle, ils élèvent leurs enfants. Bien nommer les choses ajoute du bonheur aux hommes.
Autre chanson archi connue avec Flynn Buggy, Claude François et Richard Anthony l'ont refusée, je crois qu'ils l'ont longtemps regrettée, c'est celle-ci.
Je ne suis pas sûr qu'ils l'ont refusée. Je suis pas sûr, ça c'est un peu...
C'est la légende, oui.
Oui, mais il y a des légendes qui courent comme ça. Mais comme quand je ne suis pas sûr de quelque chose, ouais, je ne dis rien.
Alors ce qui est sûr, c'est que Céline Dion, son prénom, c'est cette chanson.
C'est sa vie, oui. Sa vie, puisqu'elle elle est la 14e enfant d'une famille de 13 enfants. Mmh. Et la mère avait décidé de ne pas garder ce bébé, quand elle a su qu'elle était enceinte. Vous le saviez, ça ?
Oui.
Elle a décidé donc de ne pas garder cet enfant, malgré son éducation chrétienne, religieuse et très pratiquante. Elle savait que c'était pas bien, mais elle a dit « je ne peux pas garder l'enfant, on n'est pas assez riche, on est trop pauvre ». Et elle a entendu cette chanson Céline. Elle a, je ne veux pas dire craqué, mais c'est le mot que les jeunes utilisent. Elle s'est effondrée en larmes et elle a dit à son mari « tu sais, on va garder l'enfant, mais si c'est une fille, on va l'appeler Céline ».
Elle vous l'a dit, Céline Dion elle-même,
Non, c'est sa mère qui me l'a dit. Dans la cuisine, elle est venue chez moi à Marne-la-Coquette faire un cours de cuisine pour la télévision canadienne et elle m'a raconté cette anecdote que je n'aurais racontée si elle ne m'avait pas donné l'autorisation de la dire. Et quand j'ai chanté cette chanson à Céline Dion chez Michel Drucker, j'avais rajouté un couplet pour raconter cette histoire, elle a éclaté en sanglots et on peut voir maintenant cette image où elle pleure dans mon bras.
En tout cas, nous, on pleure de bonheur avec ce nouvel album qui est sorti le 17 juillet. On en parle dans quelques instants sur Sud Radio avec Hugo Frey.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Hugo Frey, 17 juillet 2020, sorti de Autoportrait, un nouvel album, et avec 12 chansons qui vous ressemblent et qui sont des symboles de votre personnalité, Hugo Frey.
Ben, je crois que oui, je suis dans mon disque, comme je crois qu'on disait que Flaubert était dans Madame Bovary. Est-ce que c'est juste?
Oui, mais vous aviez envie de refaire un disque.
Mais je ne suis pas Flaubert et je ne suis pas Madame Bovary.
Non, vous êtes Hugo Frey, c'est déjà
je suis dans mes chansons, mais vous avez remarqué que je ne chante jamais à la première personne.
Jamais.
Presque jamais. Je ne suis pas le genre à me déshabiller ou vider mon cœur comme ça dans les chansons d'amour. Je l'ai fait d'une façon indirecte, comme Le Petit Âne Gris ou Céline.
Voilà. Et alors, dans cet album, il y a 12 12 chansons. C'est une envie de refaire un album qui vous a guidé.
C'est-à-dire que après les deux disques que j'ai fait à New York, qui l'un s'appelait je me souviens plus comment ça s'appelait, New Yorker. Et le deuxième, ça s'appelait Since 1948, qui racontait un peu ma vie. Deux disques faits aux États-Unis, et je reviens en France et je m'aperçois que la France est un peu en difficulté, les gens n'ont pas beaucoup d'argent, les chanteurs qui ont du succès chantent devant des stades immenses, 30 000, 40 000 personnes, le Zénith, 15 000 personnes, et je me dis quand même, il y a beaucoup de gens qui aimeraient voir des spectacles, ils ne les voient pas parce que c'est trop loin et c'est trop cher. Et ça coûte trop cher aux producteurs. Alors faisons une formule qui coûte pas cher et qu'on pourra chanter dans les petites villes et dans les petites salles. Et je construis cette formule qui s'appelle Visiteur d'un soir, qui va avoir un succès immense, et je vais tourner pendant 7 ans, sans arrêt, à travers la France, dans des salles qui ne dépassent pas 1000 personnes. Donc c'est entre 600 et 900 personnes. Ça va avoir un succès fou, et au bout de 7 ans, autour de moi, on me dit, tu sais, on ne parle plus de toi, tout le monde pense que tu ne chantes plus, parce qu'on ne parle plus de toi, il faut que tu fasses un nouveau disque. C'est comme ça qu'est né ce disque il y a 2 ans.
Voilà. Une première chanson de cet album, c'est Dan Tucker, qui est une chanson américaine qui date de 1843.
Dan Tucker est un vieux routard, qui se lève tôt, qui se couche tard.
Ah, c'est moi.
Une reprise d'un classique américain. Pourquoi cette chanson?
Cette chanson est une chanson qui raconte l'histoire d'un type qu'on pourrait appeler, je mets ça entre guillemets parce que j'aime pas les gros mots, un gros dégueulasse.
Oui.
Il est sale, il est mal élevé, il fout rien, il est paresseux. C'est vraiment, il n'est pas un exemple. Or moi, j'aime bien chanter des chansons, j'aime pas choquer les gens. Et les enfants aiment bien mes chansons, c'est pas des chansons pour enfants, mais ils les aiment bien. Et je voulais pas dire des gros mots. Or, c'était une chanson qui était un peu comme ça. Donc j'ai commencé à faire une première traduction et j'ai enregistré, puis j'ai trouvé que c'était pas bien. J'ai refait le texte en disant, tiens, on a qu'à décris-toi et faisant une caricature d'Hugo Frey. Alors bien sûr, Dan Tucker qui se lève tôt et qui se couche tard, c'est vrai. Je me lève à 6h et je me couche à minuit. Un joli cœur, bon, j'ai dit ça comme ça. Un peu flambard, j'ai choisi ce mot parce que ça me fait penser à la flamme. Je dis, mais je sais pas si je suis flambard. Qui vit peinard dans son bazar, c'est un peu vrai, parce que j'ai tellement d'affaires partout que j'ai du... Mais c'est très ordonné. Et alors, tous les mots qui sont là-dedans sont normalement adaptés à moi. Je parle de ma vieille Jeep de baroudeur. C'est vrai que j'ai une Jeep qui a débarqué en 44. Et puis après, on parle d'un tracteur. J'adore les tracteurs. Et à la fin, je dis... les vieux refrains de Dan Tucker ont fait le bonheur des enfants de cœur, ça vous voyez ce que ça veut dire, mais pour les durs et les rockers, c'est un bluffeur, ça je ne suis pas un bluffeur.
Non, ça c'est vrai.
Alors, un colporteur, je suis un colporteur.
Et un peintre, parce que la pochette de l'album, c'est deux planches de bois avec votre portrait.
Oui. Et l'autre jour, sur mon Facebook, j'étais interrogé, questionné, en live, comme on dit, et les deux planches, je les ai... j'ai pas fait ça exprès, je les ai séparées pour montrer que c'était deux planches, et il y a des gens qui ont failli s'évanouir, ils ont pensé que je détruisais mon tableau. Mais c'est fait sur... avec le couvercle d'une caisse en bois, de quelqu'un qui m'avait fait le cadeau de 20... il s'appelle Michel Gonnet, c'est un type formidable, et c'est un grand viticulteur du... comment on appelle ça, de Châteauneuf du Pape.
Alors, il se trouve que la peinture, depuis toujours, ce qui m'a frappé, c'est que les premiers tableaux que vous avez créés, Hugo Frey, c'était des toiles évoquant le Pont Neuf quand vous étiez adolescent.
Ah oui, hein, j'habitais 11 rue Saint-Paul,
oui,
et juste à côté du pont Marie. C'est le pont Marie.
Oui.
Et j'avais pas d'argent, alors j'avais pris 2 bouts de carton, j'ai fait 2 petits tableaux à 2 jours différents, il y avait un soleil différent. C'est pas des chefs-d'œuvre, mais c'est...
C'est peut-être pour ça qu'à 91 printemps, vous vous portez comme le Pont Neuf, d'ailleurs.
Oui, ah, c'est gentil.
Et d'ailleurs, cette expression, on ne la connaît pas, se porter comme le Pont Neuf, elle vient de ce pont, car il est le plus résistant, car il était bâti en pierre par Henri III, achevé par Henri IV, et il résistait aux crues importantes de la Seine, et d'où
voilà
son nom.
Moi, je résiste aux crues aussi.
Vous résistez, mais nous, on ne résiste pas à vos chansons comme celle-ci. Paye-moi ce que tu me dois.
Ce soir, faut que tu me payes, demain, tu voudras m'arnaquer. Ce soir, faut...
Là aussi, l'argent, c'est pas votre motivation totale.
Ben, moi, j'ai beaucoup de respect pour l'argent. Mais c'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance parce que je me suis fait beaucoup voler dans ma vie. Et c'est une chance parce que l'argent, c'est très dangereux. Quand un jeune comme moi, qui n'a pas de diplôme, qui ne sait pas grand-chose, se met à gagner de l'argent, comme tous ces chanteurs, comme Renaud par exemple, qui chantait la misère et qui est devenu très 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 riche, c'est un danger, l'argent. Alors quand quelqu'un se débrouille pour vous vider un peu les poches, c'est une chance, parce que ça vous évite d'être empoisonné par ce poison.
Et puis il y a eu des investissements comme une ferme en Ardèche où il y avait des vaches et des lavandes qui vous coûtaient très cher.
Il n'y a jamais eu d'investissement de vaches. Ah, j'adore Jacques Bessis parce qu'il a des informations mais qui ne sont pas toujours exactes et il m'autorise à les rectifier.
Oui.
J'ai
pour
acheté
l'histoire.
Une terre en Ardèche, c'était l'endroit où elle était le moins chère en France.
Oui.
J'ai acheté une vieille ferme et j'ai à un moment donné travailler pour faire rentabiliser un peu. J'avais un troupeau de chèvres.
Ah.
Je fabriquais des fromages de chèvres dont le grand spécialiste dont le nom m'échappe maintenant, mais qui n'est plus là, mais le grand spécialiste des fromages en France m'a dit que j'avais les meilleurs dans cette catégorie, le petit crottin d'Ardèche. Voilà. Et donc, je ne me suis pas ruiné dans cette ferme, mais je me suis ruiné plutôt dans la production. Quand j'ai voulu monter une maison d'édition, ouais. Mon associé a fait en sorte qu'en 3 ans, j'avais perdu tout le travail de 10 ans.
Oui. Alors, vous avez quand même un point commun, Hugo Frey, avec Louis Pasteur, Michel Serrault et le prince Charles. C'est le mérite agricole et je crois que c'est une récompense à laquelle vous tenez le plus au monde.
Oui, 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 beaucoup. J'aime. Oh, mince, je voudrais pouvoir le remercier. C'est le ministre de l'agriculture de l'époque qui m'a offert cette médaille. Moi, j'ai beaucoup travaillé aussi pour aider un cavalier qui lançait un sport nouveau en France, qui est les courses d'endurance. Long distance riding. Les longues distances, c'est les courses de 160 km à cheval. En une journée, avec un seul cheval. Et j'ai beaucoup aidé cet homme qui était champion, qui aurait été champion du monde, il était champion d'Europe. Et c'est là que j'ai rencontré ce monsieur et il m'a donné cette médaille.
Et ça, vous y tenez beaucoup.
J'y tiens.
Et sur cet album, il y a une autre chanson aussi très particulière, et on en revient un peu à l'église, c'est Le Bon Dieu s'énervait.
Le Bon Dieu s'énervait dans son atelier, sur son maudit volet.
Alors, Bon Dieu s'énervait, c'est une chanson chère à votre cœur, que vous avez reprise,
oui,
parce
oui.
qu'elle est toujours d'actualité.
Oui, elle était ancienne, c'est une ancienne. La Maison Universal m'a demandé de faire un effort, de reprendre 2-3 chansons de mon répertoire, parce qu'ils craignaient un petit peu que mon public soit désarçonné par des chansons nouvelles, qu'ils aimeraient bien retrouver. Et comme ces chansons ont une valeur qui est hors mode, j'ai repris Le Bon Dieu s'énervait. Mon Dieu, que c'est long de faire un monde en paix.
Voilà, et finalement, elle est plus que jamais d'actualité en 2020, Hugo Frey.
Oui, oui, mais il ne faut pas décourager les jeunes. Il ne faut pas décourager les jeunes. Moi, je crois que après la tempête, il y a le beau temps, il y a le calme qui reviendra.
Et puis le cheval, bah, votre passion du cheval, vous l'évoquez aussi dans une chanson qui est elle aussi un classique, qui est Stewball.
Il s'appelait Stewball. C'était un cheval blanc.
La passion du cheval, c'est...
Avec Michael Jones, il oui. faut le dire. Michael Jones qui m'a offert un cadeau, sa présence, pour faire une voix avec moi. Mais aussi, grâce à lui, j'ai pu aller à Londres, enregistré dans le studio des Beatles à Abbey Road et avoir l'amitié de la visite de notre ami, le grand copain Jean-Jacques Goldman, qui est venu nous dire bonjour. Et comme j'adore Jean-Jacques Goldman, qui est un type merveilleux et qui est secret et qui est très... que je n'avais pas rencontré depuis 20 ans, 15 ans. Ou 20 ans peut-être, je ne sais pas. Et en tout cas, j'ai eu le plaisir de dîner avec lui, ça a été un grand cadeau, grâce à cette chanson.
Alors cette chanson, justement, Stu Ball, ça évoque votre passion des chevaux. Il y a même une compétition équestre que vous avez créée, qui était la Chevauchée Fantastique.
Oui, c'était pas exactement une... Oui, c'était une, c'est une compétition... mais je vous ai parlé tout à l'heure de Gaston Mercier, qui en fait était champion du monde de long distance riding, sauf que ce titre, il n'a pas pu l'obtenir à cause d'une attitude lamentable de ces gens qui sont souvent, qui s'occupent du sport, qui sont tout sauf des sportifs, mais qui ont surtout le souci d'avoir le blazer bleu marine avec l'écusson de la fédération. Le long distance riding ne faisait pas partie n'était pas reconnu par la Fédération française d'équitation. À cause de ça, nous sommes passés à côté. Mais ce sport maintenant est imposé, existe en France, et moi j'ai fait une adaptation spéciale en Haute-Savoie. Ça s'appelait La Chevauchée Fantastique.
Et La Chevauchée Fantastique, c'est un film de John Ford avec John Wayne et Claire Trevor. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'au début, deux autres comédiens avaient été pressentis et ça ne s'est pas fait. C'était Gary Cooper et Marlène Dietrich. Ils avaient joué les rôles principaux.
Gary Cooper, c'est mon idole absolue.
Voilà, et ben, il aurait dû jouer dans La Chevauchée Fantastique. Une autre chanson de cet autoportrait, et on va en parler, c'est « Il y a un homme qui rôde et qui prend des noms ».
Il y a un homme qui rôde et qui prend des noms.
Vous indiquez sur la pochette que cette chanson est dédiée à Georges Brassens, Hugo Frey. Pourquoi ?
Oui. Parce que la fin, l'image de la fin, c'est une image qui a été créée, inventée par Brassens dans une chanson qui s'appelle « La messe du pendu ». En deux mots, je vous la raconte. Dans un village, le village a condamné à la pendaison un homme, sans jugement. Et les hommes vont à la forêt pour le pendre. La seule personne qui s'oppose à ça, c'est le curé du village, qui dit non, on ne peut pas pendre quelqu'un qui n'a pas pu se défendre. On ne tient pas compte de la parole du curé et on pend le type. Le curé, désespéré, le lendemain, va avec les habits sacerdotaux et puis le calice, l'hostie, il décide de faire la messe. Il est tout seul avec les arbres, les animaux, peut-être aussi les marguerites, les fleurs. Et il dit la messe. Et Brassens s'ajoute, il dit, et ce jour-là, le Christ est pendu à un arbre. Donc j'ai voulu associer la mort de ce pauvre Jesse Washington, 17 ans, ouvrier agricole, condamné à être découpé en morceaux, vivant, brûlé, vivant, devant 10 000 personnes, pour un viol qu'il avait peut-être fait, mais qui ne méritait pas cette horreur. Aujourd'hui, et donc je dis qu'à la fin, quand ils sont revenus pour voir, ils ont trouvé un Christ. Et c'est donc un hommage à Brassens, j'aurais pas pu inventer une fin pareille.
Et puis une chanson incontournable aussi qui clôture cet album, c'est Hasta Luego.
Hasta Luego, et oui. Père Jaouen.
Ouais.
Père Jaouen, c'est un marin breton, mais c'est surtout un curé qui... Il est décédé maintenant, et paix à son âme, et peut-être qu'il nous écoute, et il nous entend. En tous les cas, le père Jaouen a passé sa vie dans les prisons. C'était aumônier des prisons, il allait donner du courage aux gens qui sont malheureux dans les prisons. Et quand il a pris sa retraite, il a réussi à trouver des subventions pour affréter un bateau, un trois-mâts. Il faut dire qu'à ce moment-là, en France, il n'y avait plus un seul trois-mâts, même pas pour l'armée. Il a armé un trois-mâts qu'il a appelé le Bel Espoir, et il emmenait les enfants qui étaient drogués en leur faisant des grandes traversées, en espérant que le vent de l'océan pouvait nettoyer leurs poumons et leur esprit, les ramener à quelque chose de plus normal. Et cet hommage que j'ai rendu à ce prêtre, j'ai voulu être discret, j'ai pas donné de détails, mais les enfants de la nuit qui vont chercher le vent de l'oubli, voilà, laissez-les passer, laissez-les vivre.
Alors, hasta luego, ça veut dire à bientôt, c'est-à-dire que vous allez continuer maintenant.
Ah oui.
Vous allez reprendre votre route, Hugo Frey.
Je ne vais pas continuer, je vais commencer une nouvelle carrière.
C'est-à-dire ?
Eh bien, j'ai un programme, je vous ai dit, la réouverture de Sorèze, le changement de nom du ministère de la création de l'instruction publique, et entre autres, et puis peut-être écrire rassembler tout ce que je viens de raconter dans un livre qui est en chantier. Et puis aussi, j'ai des sculptures à faire. Pour, par exemple, je dois faire... Ah ben, je vous le dirai pas.
On en parlera, le jour venu. Car vous
et des peintures.
Voilà. Et vous serez toujours le bienvenu sur
Sud
Radio.
Un grand programme.
Oui, et vous revenez quand vous voulez. Pour l'instant, il y a cet album Autoportrait dont on a parlé et que je recommande à celles et ceux qui nous écoutent. Continuez, vous êtes un exemple de jeunesse et pour
merci,
la jeunesse,
merci, Gaufret. Merci, Jacques.
Merci.
Merci,
et puis,
fois.
Merci d'être venu. Et puis, on se retrouve bien sûr bientôt pour d'autres clés d'une vie. Bonne journée, merci, à bientôt.